D'ici. Et d'ailleurs.
D'ici et d'ailleurs.
La revue culturelle
de Néo Géo.
Bienvenue dans un Mac d'ici et d'ailleurs résolument jazz. Aujourd'hui, pour rendre hommage, découvrir, réécouter un musicien qui a suscité incompréhension et ferveur durant plusieurs décennies, il s'appelait Thelonious Monk. En 2022 étaient commémorés les 40 ans de sa mort, lui qui était né en 1917, de ces dates anniversaires qui donnent l'occasion de publications et rééditions. Pour ce mag, en musique et en images, je reçois aujourd'hui le cinéaste Alain Gomis. Bonjour.
Bonjour.
Alain Gomis, dans le documentaire Rewind and Play, consacré à une émission de télévision où fut invité Thelonious Monk à Paris, un tournage plutôt catastrophique dont nous parlerons. Nous allons essayer de ne pas faire une émission aussi catastrophique, mais avant de parler de ce documentaire qui a d'ailleurs premièrement paru sur la chaîne Arte et qui sort ce 11 janvier sur tous les bons écrans, j'avais envie de rafraîchir la mémoire de nos auditeurs et nos auditrices avec quelques morceaux que vous connaissez bien, je pense, et que vous nous ferez le plaisir de commenter, si vous êtes d'accord. Un grand classique, hein ?
Ouais, c'est son grand tube Round Midnight. On dit que c'est le morceau de tous les standards de jazz qui a été le plus enregistré. Pour quelqu'un qui... Et c'est marrant, lui, il a passé beaucoup de temps à chercher un tube, parce que, voilà, il est musicien, il fallait réussir à vivre. Il a eu celui-là, mais pendant longtemps, il n'a pas été crédité comme étant le compositeur de ce morceau-là. Et je pense que...
Il est crédité avec Cootie Williams.
Ouais, qui, je crois pas, qui a pas du tout écrit le morceau. Par contre, comme il fait partie de ceux qui ont enregistré en premier. En fait, c'est celui qui allait le premier déclarer le morceau, qui mettait son nom. Donc, ouais. Et voilà, ouais, son grand tube, le truc le plus, un très beau morceau, un peu énigmatique comme ça.
Et qui a fait, enfin, qui a été le titre aussi d'un film. Hein.
Le film de Tavernier, ouais.
De Tavernier, ouais.
Qui est un film. Oui, où il fait jouer Dexter Gordon, le saxophoniste, pour jouer le rôle de Bud Powell, grand ami de Monk, aussi pianiste, dans ses années à Paris, où voilà, c'est un peu la dérive de ce gars, très jolie personne, un type qui se fait péter la gueule par la police au point de perdre un peu la tête, vraiment. La vie des jazzman est un peu compliquée à ce moment-là. On en fait, c'est qu'on en fait un truc qui au final est très beau, très joli, prend beaucoup de... Mais en fait, la vie quotidienne était vraiment dure.
N'était pas forcément romantique. Thelonious Monk lui-même a eu affaire à la police, arrestation, emprisonnement.
Ouais, suppression également. De sa carte, puis pas.
Suppression de sa carte de musicien pendant de longues années.
Ouais. Juste, les musiciens, jusqu'à aujourd'hui, connaissent ça, de faire le cachet, de jouer tous les jours, d'essayer de gagner sa vie. Là, il y a un moment où ils jouent toute la nuit, quasiment, quoi. Enfin, il n'y a pas de règles. Donc, ce que t'es payé, pas payé, tu joues toute la nuit, tu fais le nombre de... Enfin, voilà, ils sont corvéables à merci, en fait.
Un autre morceau que vous connaissez forcément de Thelonious Monk. Thank you. avec ses notes d'introduction très reconnaissables.
Ouais.
Straight No Chaser.
Ouais.
Alors qui voudrait dire... Non, c'est pas cul sec.
Si, c'est ça. D'un coup, mais sans le chaser, c'est-à-dire le truc qui vient adoucir derrière, quoi. Le petit soda qui vient adoucir la grosse rasade de whisky.
Encore un des morceaux qui a eu beaucoup de succès et avec ses, je parlais de ses introductions très, très originales.
Avec cette espèce de truc qu'il a, lui, c'est avoir des espèces de gimmicks. C'est entre comique. Des fois, il a un truc drôle aussi, quoi. Et ce morceau, il a cette façon d'être un peu drôle, quoi.
Thelonious Monk qui a repris également par ailleurs Just Gigolo quand on parle de, d'humour, car c'est un des grands compositeurs du jazz, mais un des grands interprètes, enfin, et réarrangeur de différents morceaux.
Quand il prend un morceau, il se l'approprie totalement. Et Just Gigolo, ces versions de Just Gigolo, elles sont d'une mélancolie terrible. Et oui, c'est très émouvant, ces morceaux.
Et nous poursuivons cette revue de morceaux très connus. En fait, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, je pense, connaissent ces morceaux sans savoir forcément, pour les plus jeunes, qu'ils viennent de Thelonious Monk, Alain Gomis.
Bizarrement, là, c'est quelqu'un dont on a dit tellement que sa musique était compliquée. Et puis, en fait, elle s'est introduite et a été enregistrée par beaucoup de gens. Donc, souvent, on connaît à l'oreille. Il est devenu beaucoup plus populaire que tout ce qu'on a prédit, en fait.
Autre morceau. Encore un standard, un Blue Monk.
Ouais, un des morceaux des vraiment les plus parmi les morceaux les plus appréciés des musiciens. Coltrane adorait ce morceau par exemple. Il aimait beaucoup le jouer. Il a fait des envolées là-dessus. Ouais, donc c'est un morceau, je dirais, un de ces morceaux vraiment appréciés des musiciens.
Le saxophoniste Blue Monk que nous écouterons dans un autre morceau que vous avez choisi, dans une autre partie de l'émission. Eh bien, écran, nous allons voir Rewind and Play dans quelques secondes.
D'ici. Et d'ailleurs.
Et d'ailleurs. D'ici et d'ailleurs.
Bienvenue de nouveau dans ce mag d'ici, ici à Paris où fut tournée l'émission de télé dont il est question dans le film de notre invité, le cinéaste Alain Gomis. Rebonjour. Magazine d'ici à Paris donc, et d'ailleurs dont venait le protagoniste de ce tournage, le pianiste et compositeur afro-américain Thelonious Monk, considéré comme l'un des pionniers de la révolution jazz bebop, aux côtés de Dizzy Gillespie, Charlie Parker, John Coltrane ou encore Kenny Clarke, pour ne citer que film dans le film. Alain Gomis, lors de ses recherches sur ce musicien unique qui a tracé une route musicale originale et composé ce qu'on appelle maintenant des standards repris par moult musiciens, Alain Gomis, il va nous en dire plus, a retrouvé des archives, n'est-ce pas, d'une émission de télévision qui s'appelait Jazz Portrait, tournée en 1969. Thelonious Monk, qui était venu une première fois en 1954 pour un premier concert.
Ouais, à Pleyel, salle Pleyel.
Sur l'invitation, entre autres, d'un jeune musicien de jazz qui s'appelait Henri Renaud, qui était allé à New York et qui faisait partie un petit peu de ces aficionados, enfin en tout cas de ces personnes averties qui avaient repéré le talent de Thelonious Monk.
Ouais, c'est ça. Il va là-bas. À ce moment-là, Monk n'a pas le droit de jouer, il a perdu sa carte de cabaret. Donc c'est vraiment pas quelqu'un qui est au devant de la scène, mais lui, il l'apprécie et est suffisamment aficionado, c'est effectivement pour le reconnaître son talent, aller chez lui, aller le voir à Brooklyn, parce qu'il n'a pas le droit de jouer à New York, mais il a le droit de jouer à l'extérieur. Voilà, je crois que c'est quelqu'un qui admire vraiment, vraiment Monk. Après, il débarque d'une autre planète, c'est-à-dire qu'il débarque de Paris, de la France, je crois d'une vision assez bourgeoise de ce que c'est qu'un artiste, avec plein de bons sentiments et plein de choses.
Là, on parle d'Henri Renaud, que l'on retrouve dans le film documentaire donc, d'Alain Gomis. Henri Renaud, bah, on va l'écouter d'ailleurs maintenant, enfin, juste un extrait.
Et le premier jour que j'ai fait, j'étais ossifié tout le temps que j'étais ici.
Non, on ne dit rien sur ça.
Okay. I mean, everything. It's no secret, is it?
No, but it's not nice.
It's not nice.
Alors, c'est un extrait de la présentation de ce documentaire d'Alain Gomis. Et on est dans le film, on est dans les coulisses de ce jazz portrait. Et c'est là Thelonious Monk qui dit « La première fois que je suis venu en France, j'étais pétrifié ». C'est ça. Et le pianiste devenu journaliste présentateur, Henri Renaud, lui dit on ne parle pas de ça, it's not nice. Et donc Thelonious Monk dit ah ouais, c'est un secret. L'autre dit non, pas bien, c'est pas bien, c'est pas ce qu'on attend en fait de ce musicien. C'est un petit peu tout le sujet de ce film.
Ouais, c'est ça qui est un peu fou, qui est très dérangeant en fait. Moi, ça, en découvrant les images, etc., ce qui est très dérangeant, c'est comment finalement il est traité. Avec à la fois beaucoup d'admiration et beaucoup de condescendance. Qu'il y a. C'est un peu comme si, voilà, vous avez des gens qui sont les modernes, en quelque sorte, des gens qui se considèrent comme ouverts d'esprit, qui sont les gens ouverts vers le jazz, etc., et qui sont les plus maladroits, qui utilisent qui reproduisent le plus de stéréotypes. C'est la position du dominant qui fait l'effort d'aller vers. Et c'est bien de faire l'effort d'aller vers, mais là, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe.
Est-ce que ce n'est pas un faux procès que vous faites à ce musicien Henri Renaud, qui était plutôt bienveillant à l'égard de Thelonious Monk, qu'il admirait beaucoup et qu'il voulait mettre en valeur ?
Ben ouais, c'est ça le truc, quoi. C'est qu'effectivement, il est bienveillant. Et c'est toute l'ambiguïté, toute la difficulté de la chose. Hier, j'ai fait une projo, une avant-première. Donc comme je m'énerve souvent en voyant le film, parce que c'est révoltant quand même ce qui se passe là, c'est ce qu'on continue de reconnaître aujourd'hui, c'est-à-dire que quand c'est pas dit, mais vous savez très bien ce qui est en train de se passer en fait, dans la façon dont on se permet des choses qu'on ne permettrait pas avec d'autres personnes, par exemple, quelle que soit la catégorie dont on parle. Et donc on fait tout le débat, etc., et puis au bout d'un moment, quelqu'un dit « mais non, mais c'est extrêmement raciste ce qui est en train de se passer à ce moment-là », une personne très en colère.
Et, qu'est-ce qui est raciste hein?
C'est le racisme au quotidien. C'est cette façon dont, une espèce de positionnement qui fait que, déjà, le fait de s'intéresser à lui, c'est presque déjà un exploit personnel. C'est un cadeau. Et qu'on, du coup, quand il critique un peu voilà, cette première venue, donc là, à ce moment-là, il dit... donc lui, il est très fier de lui, parce que c'est lui qui l'a fait venir en 54, déjà. Il lui dit... il lui demande de raconter ce moment, et Monk, qui raconte que, bah voilà, il vient, ses musiciens sont pas invités, etc. Il faut qu'il se débrouille pour jouer avec des gens qu'il connaît pas. Et en plus, il est moins bien payé de tous. Et là, l'autre, il lui dit, bah non, il se retourne vers le réalisateur, il dit, bon, ça, on coupe, on va pas le garder, parce que c'est désobligeant. Il y a deux choses qui se passent, c'est-à-dire que, d'abord, lui, il a déjà son image son discours préconçu sur Monk, et tout ce que Monk raconte et qui ne rentre pas là-dedans sera coupé. D'ailleurs, à la fin, dans l'émission telle qu'elle est diffusée, les 30 minutes qui restent, il reste deux questions posées à Monk. Quel est le titre de ce morceau? Et vous souvenez-vous quand vous l'avez composé? C'est-à-dire que tout le reste, tout ce qui est de la parole véritable de Monk, à la poubelle. Et quand il dit quelque chose, il lui dit, mais c'est pas très gentil.
En même temps, vous faites le procès de la télévision ou des productions telles qu'elles peuvent être, que ce soit en télévision ou en radio, où sans respect quelquefois pour la parole de l'interviewé, on recompose une histoire.
Exactement, c'est-à-dire qu'il faut que ça rentre dans la volonté de promotion ou de la façon dont on va marketer le truc. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il veut le faire, je crois vraiment, parce qu'il veut faire la promotion de ce gars-là. Et en même temps, on est en 69, c'est la fin des années de Gaulle, ils sont très contents de pouvoir amener ce gars avant-gardiste à la télévision, et ils s'en sont tellement contents que plus ils vont dire que ce type est extraordinaire, bizarre, tout ça, etc., plus ils vont être contents d'eux et plus lui, ils vont le caricaturer, en fait.
Il y a ainsi une autre séquence où on insiste pour que Thelonious Monk parle de l'installation de son piano dans sa cuisine. Donc il y a un côté un peu marrant, peut-être du personnage excentrique, et où lui répond, ouais, dans mon appart, c'était la pièce où ça pouvait rentrer, quoi. Et ça aussi, c'est une réponse qui n'a pas l'air de trop convenir.
Audio piano in your kitchen. It's a fenestra. You don't like to tell something about that?
Oh, that's nothing.
Oh, it's beautiful. No?
I don't mind.
No? J'ai eu la chance de fréquenter Thelonious Monk en 1954 à New York et d'aller fréquemment chez lui. À l'époque, il habitait un petit appartement dont les pièces étaient vraiment exiguës, à l'exception de la cuisine. Il jouait alors sur un petit piano droit qu'il avait placé dans son salon. Puis, plus tard, quand le succès est venu, il a changé de piano, il a acheté un grand piano de concert, et comme seule la cuisine était capable de contenir cet instrument, il n'a pas hésité une seconde, il l'a placé dans la cuisine. Si bien que, vous le voyez sur cette photo, quand on entre chez Thelonious, on aperçoit le piano entouré de l'évier, du réchaud à gaz, du fer à repasser, des choses comme ça. Thelonious, why did you put your piano in your kitchen?
Because that was the largest room in the apartment.
En fait, Thelonious vient de vous redire ce que je vous avais dit. Thelonious a placé son grand piano dans sa cuisine parce que c'était la pièce la plus grande de tout l'appartement. Bernard, je me demande si on ne devrait pas refaire ça, que je lui pose d'abord cette question, parce que ça fait un peu con, là, comme j'ai de répéter deux fois la même chose, hein.
Ouais, ça ne correspond pas à l'espèce de mythe qu'on est en train d'essayer de construire, de cette espèce de génie incompris, machin, etc., qui est le truc marketing, quoi. Et qui est tellement extraordinaire qu'il a mis son piano de concert dans sa cuisine. Bon, il l'a mis dans sa cuisine, comme il le dit, parce que c'est la seule pièce de l'appartement qui pouvait le contenir. Y a rien de romantique. Et c'est ce décalage permanent, cette façon de bouffer l'histoire de Monk et la réalité de Monk pour en faire quelque chose qui, finalement, marche dans ce type de diffusion-là. C'est une espèce d'expropriation, en fait, de sa propre histoire pour en faire quelque chose d'autre qui serait vendeur. Et le voir en action, parce que là, grâce au Rush, on le voit en action, c'est d'une drôle de violence, en fait.
En l'occurrence, Thelonious Monk n'était pas le bon client pour plusieurs raisons. Peut-être aussi lui faire refaire ses réponses, le forcer à se mettre dans un jeu qu'il ne contrôle pas. Lui qui a toujours été très indépendant et n'aimait pas faire 36 prises, par exemple lorsqu'il faisait ses enregistrements.
C'est quelqu'un, je trouve, d'une rare intégrité. Il joue jamais le jeu, et c'est aussi vrai dans sa musique, c'est-à-dire qu'il fait pas la phrase facile, la résolution habituelle. Il va toujours essayer de chercher le truc du moment, d'une espèce de. C'est comme s'il recréait aussi ses morceaux tout le temps, même si c'est un standard, même si c'est quelque chose ou son propre morceau qu'il a joué mille fois, il essaye toujours d'être dans le présent. C'est ça aussi qui le rend bizarre par rapport aux autres, et qu'on voit bien dans l'émission et dans les rushs de l'émission. C'est-à-dire que pendant que tous y sont affairés à des choses et ils ont l'air d'être de fourmis, lui, il est là, c'est le seul qui est là, présent, et personne ne le calcule vraiment. Et je crois que c'est quelqu'un de très ancré. Et c'est dans son honnêteté, dans son intégrité, qui paraît aussi excentrique aux yeux des autres.
Sans compter que nous sommes en 1969. Quelques années après, ce sera quoi là, au milieu des années 70. Il entrera dans un mutisme quasi complet. Et son excentricité va le faire se retrouver, enfin, soi-disant excentricité va être analysée comme une bipolarité. Donc déjà, quand il vient dans cette émission de télé, c'est déjà un monsieur qui... on ne sait pas toujours s'il est en train de jouer ou si il ne contrôle pas forcément ses réactions ou ses non-réactions.
Ouais. Alors d'abord, il y a un très beau livre écrit par Robin Kelly, qui est un universitaire américain qui a passé 13 ou 14 ans à travailler sur lui, spécialiste de l'histoire afro-américaine, et qui est un livre extrêmement sourcé, et qui donne, avec beaucoup de témoignages de gens, de proches, etc., et qui donne une image un peu... qui justement raconte la construction de cette image de Monk, et qui essaie d'aller plus vers qui est Monk, et de le mettre en contexte à chaque fois. Donc lui, il a joué pendant toute sa vie avec une image d'excentrique qui à la fois le fait manger, à la fois le dérange énormément. Et on le voit dans l'émission, il y a un truc où c'est un peu la bête curieuse, quoi. La façon dont on le filme, la façon, etc. Il y a un truc... et à la fois, c'est quelque chose qui lui permet de nourrir ses enfants. Quand son fils voit le film, T.S. Monk, qui est aussi musicien, qui a joué avec lui, il a pleuré pendant toute la projection du film. Il y a un truc d'assez... Et il m'a dit... Il dit, je ne savais pas ce que mon père était obligé de traverser pour nous nourrir. Il fait le boulot, mais la façon dont on parle de lui, c'est magnifique, excentrique, etc. C'est quelque chose qui lui fait violence. Et à la fin, ouais, il finit dans le silence, mais il est crevé. Et c'est aussi un truc, je crois, qu'on voit dans l'émission. C'est fatigant d'abord, il joue énormément. Il joue énormément pendant 30 ou 40 ans. Quasiment tous les jours.
Avec une phase finale où il est devenu une grande vedette internationale, ouais. Et effectivement tourne dans le monde entier.
Et c'est éprouvant. Moi j'étais surpris quand on a monté le film, et puis moi je suis surpris à chaque projection. C'est éprouvant. Il y a un truc qui est éprouvant de le regarder et 30 ans de ça, en se tapant en plus des questions à chaque fois. Comme celle-ci, avec des gens avec de si bonnes intentions, mais qui vous mettent à un endroit qui est un peu dégradant. Je crois qu'il est fatigué, et je crois que quand il se lève et qu'il arrête de jouer, il a la chance de pouvoir arrêter de jouer parce qu'il est aussi aidé par quelqu'un, Panonica de Koenigswarter, qui l'aide aussi financièrement. Et il n'en peut plus, quoi. C'est des tunnels, c'est quand même des tunnels de vie. Enfin, c'est des combats du quotidien quand même.
On pourrait dire qu'il se tait pour ne pas exploser, mais enfin, chacun peut y voir un petit peu ce qu'il veut dans les attitudes de Thelonious Monk.
C'est ça.
Vous vous servez de ce matériau pour dénoncer les attitudes racistes ou les maladresses qui peuvent exister jusqu'à aujourd'hui.
Ouais. Après, justement, moi, enfin, bien sûr, évidemment, à partir du moment où on fait un film, on fait un montage, on y met de soi, on se raconte soi-même, tout ça, etc. Je me suis senti l'obligation d'aller voir son fils à un moment pour savoir est-ce que je déconne. Ou est-ce que, voilà, il m'a dit c'est l'homme que je connaissais. Et donc on a parlé beaucoup du film, etc. Ce racisme-là, c'est pas le racisme violent, c'est le racisme du quotidien. C'est le racisme que chacun connaît quand il a répondu à une annonce pour un appartement, et la porte s'ouvre, et les yeux de la personne qui vous voit... qui attendait quelqu'un d'autre. Ça, c'est des choses, c'est des petites choses que vous avez engrangées des millions de fois. Et il sait, au moment où il débarque à l'aéroport, comment il va être regardé par les gens autour de lui, dès le début. En plus, il y a une caméra qui vient.
L'image que l'on voit donc dans votre film.
Et cette espèce de choses qu'on connaît et qu'on décrypte à chacun des pas qu'on fait, vous, Me Too, vous connaissez... Magnifique. Voilà, vous savez très bien de quoi je parle, quoi. Ces expériences-là multipliées qui font le quotidien de ces gens-là.
Je vous ai demandé de venir avec quelques morceaux. Vous avez choisi Evidence avec John Coltrane. Pourquoi ? Je vais demander le commentaire sur plusieurs morceaux que
c'est un morceau
nous donnerons quelques notes.
C'est un morceau un peu bizarre, comme ça. Enfin, il n'est pas évident à siffler, par exemple, si on essaye de mettre le thème. Il a ce côté un peu inattendu qu'a Monk, et en même temps, c'est un morceau qu'il appelle Evidence. Il y a tout lui, c'est à la fois drôle, à la fois... C'est ce qui est bien, c'est lui, c'est sérieux et drôle, c'est maladroit et virtuose. C'est, voilà, il y a les...
John Coltrane qui donc avait quitté Miles à un moment donné, je crois, et puis a joué avec Thelonious Monk, notamment lors de ses fameuses séances du... c'était le Five Spot,
ouais.
C'est ça, enfin ses premières scènes quand il a récupéré à New York donc sa carte de musicien avec l'autorisation de jouer.
Ouais, Miles Davis le vire Coltrane parce que Coltrane se défonce trop, et il y a une scène un peu terrible où il le frappe et Monk qui vient lui dit mais tu peux pas te laisser traiter comme ça, c'est pas possible. Il décroche. Il vient chez Monk, il joue au Five Spot, qui est un nouveau lieu, enfin pas tout à fait nouveau, mais voilà, il joue à cet endroit-là. Et Coltrane, de Coltrane d'après, moi j'ai l'impression qu'il naît là. Monk, des fois, il se lève, il sort dans la rue, il les laisse jouer, les musiciens, ils ont une grosse liberté, du coup, et ils font, c'est là qu'ils développent, il le dit, Coltrane, c'est improvisation très longue, et c'est technique d'improvisation très très longue. Et il s'envole à ce moment-là, vraiment, il devient le Coltrane de l'après qu'on connaît, quoi.
Sur Nova, vous écoutiez l'extrait d'un des morceaux favoris de notre invité, le cinéaste Alain Gomis. C'était Evidence de et par Thelonious Monk, le pianiste et compositeur en quartet avec le saxophoniste John Coltrane, live at Carnegie Hall en 1957. Brilliant Corners avec Sonny Rollins et Art Blakey font aussi partie de vos disques de chevet, me disiez-vous, Alain Gomis. Vous qui vous êtes beaucoup intéressé à Thelonious Monk, qui êtes très critique quant à ce qui ressort du tournage de l'émission Jazz Portrait de 1969 avec Thelonious Monk, vous êtes-vous demandé ce que vous auriez fait à la place d'Henri Renaud?
Est-ce que
faire une émission, qu'est-ce que vous auriez fait si vous deviez inviter Thelonious Monk et a participé à la réalisation d'une émission de télévision où il jouera au piano et il répondra à des questions ou pas?
Je crois pas que tu poserais de questions, quoi. Je me demanderais est-ce qu'il... Je crois pas que je lui poserais de questions. Voilà. Ou alors, j'en sais rien. Mais c'est aussi pour ça que je fais pas de journalisme. C'est aussi pour ça que... Le problème, c'est les formats.
À qui le dites-vous?
Ouais. Est-ce que les choses continuent de pouvoir exister quand le format, il est prévu à l'avance? C'est tout le travail de Thelonious Monk. Justement, de bousiller les formats. C'est pas quelqu'un qui fait comme les autres. Est-ce qu'on arrive, et c'est, voilà, est-ce qu'on arrive à continuer à dire les choses quand le format est plus fort que ce que vous dites? C'est-à-dire que finalement, il y a un sujet... Et puis un autre sujet qui va venir derrière, un autre quelqu'un, etc. Et une espèce d'écrasement, de superposition des choses, et on n'arrive plus à entendre. Donc ça va au-delà, effectivement, racisme par racisme, machin, etc. C'est est-ce que les choses que l'on produit, elles ne sont pas tuées à l'avance par les formats qu'on nous impose?
C'est ce que vous ressentez aussi dans ce que vous faites en tant que cinéaste de fiction?
Bien sûr. Dans tout ce qu'on essaye de nous imposer dans la production d'un film... fait que, voilà, t'essayes de pouvoir préserver la possibilité de faire exister quelque chose qui continue d'être un peu proche de la chose du départ, de ne même pas parler de pureté ou quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est notre problème à tous. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire pour arriver à tel mode de diffusion? Est-ce que le chemin à faire va pas tuer la chose? Dans 90% des cas, je crois que ça la tue.
Votre idée de départ, c'était de réaliser un biopic. Il est toujours en cours. C'est toujours non?
Oui.
Sur Thelonious Monk.
Oui. On est toujours là-dessus. Il y a toujours encore des petits problèmes de droit, mais ça devrait se résoudre. Ouais.
L'un des beaux morceaux que vous avez choisi, que l'on peut aussi écouter dans votre documentaire, c'est Crépuscule for Nelly.
Ouais.
With Nelly.
Ouais. Crépuscule with Nelly. Nelly, sa femme. C'est difficile d'en parler très, très vite. Il la rencontre très jeune. Ils font toute leur vie ensemble. Elle lui permet d'être qui il est. Il lui permet aussi d'être qui elle est. Je crois que ça marche dans les deux sens. C'est quelqu'un à ses côtés qui est beaucoup de choses. Elle s'occupe de lui autant que... Mais pas autant que... Parce que des fois, on a tendance à dire, ouais, sans lui... qu'elle fait tout, effectivement, elle s'occupe d'administration parfois à un moment, elle, pendant des années où il ne peut pas jouer, c'est elle qui va gagner de l'argent, etc. Elle croit en lui de façon incroyable, mais lui aussi s'est occupé de ses enfants, lui aussi s'est occupé de... C'est un couple complexe et très beau. Donc voilà, ce morceau-là, c'est pour elle. À un moment où elle est à l'hôpital, il a très peur qu'elle y passe, et il écrit ce morceau, 2 minutes, sur lequel il n'y a jamais eu d'improvisation. Il veut jamais qu'il y ait d'improvisation, et c'est un des seuls morceaux qui rejoue presque à chaque fois de la même façon.
Écoutez, dans le documentaire d'Alain Gomis, Rewind and Play, puisque dans cette fameuse émission de télévision de 1969 pour l'ORTF en France, Thelonious Monk avait joué, et c'était assez rare finalement de le voir en image, de l'écouter, oui, mais de le voir
à la
télévision.
Oui, il n'y a pas tant de vidéos de lui, et très très peu où il parle. Et là, on voit aussi un peu pourquoi. Et puis parce que aussi, Médicilence, dans ce truc, a jamais joué le jeu. il se met pas forcément dans le rythme du truc, quoi. Ça marche pas, ça fait pas bon client. J'ai pris ce terme, en fait, au fur et à mesure. Il y a des bons clients.
Il y a eu le documentaire de Charlotte Zwerin, Straight No Chaser. Et j'ai un sac à malice où j'ai mis quelques objets que vous allez peut-être saisir et nous commenter toujours autour de Tell a News Monk.
Qu'est-ce que c'est ? Il faut que je fasse dedans.
Ouais.
Ah, d'accord. Oui, alors il y a le livre de Laurent Deville, Monk, qui est un livre que j'aime bien parce qu'il en parle, parce que c'est un musicien, c'est un pianiste évidemment, Laurent Deville, et qui sait, je trouve, vraiment bien parler des morceaux de l'intérieur, de la mécanique intérieure de musiciens qui jouent ensemble. Comment ils s'écoutent, comment ils se relancent, comment on s'appuie sur la section rythmique, etc. Ça, je trouve qu'il en parle vraiment, vraiment bien.
Monk, il croit à cette réserve inépuisable du silence. Il entend la musique autant qu'il la joue. Et il n'y a pas beaucoup de musiciens dont on puisse dire cela. Alors pourquoi parler dans la vie ? C'est un luxe. Il a un petit tourne-disque dans la tête, et ça joue tout le temps là-dedans. Puis on peut s'observer, se sentir, s'entendre, sans avoir à ouvrir le bec. Hank Jones raconte qu'il a fait un trajet de 6 heures avec Monk et Bud assis côte à côte. Ils n'échangèrent pas un mot de tout le voyage. Arrivé à destination, chacun se dirige vers sa loge et, au moment de se quitter, Bud dit à Thelonious « Nice talking to you. » Content de te causer. Typique. Ils n'avaient pas besoin de se parler, ces deux-là. Tout passait par ailleurs.
Néo, géant.
Bah, il parle notamment des morceaux que vous avez choisis, comme par hasard, le Evidence et puis le Brilliant Corners.
Ouais. Voilà, donc c'est vraiment la lecture ou la vision d'un pianiste à l'intérieur de Monk. Pour ça, c'est vraiment bien.
C'est en poche, donc on peut le recommander aux éditeurs et auditrices de Néo Géo. Alors là, vous avez sorti un livre,
ouais.
Mister Monk,
sous la direction.
C'est sorti en octobre 2022.
Ouais, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai feuilleté. Et donc, tu sais qu'il a fait un très gros travail pour compiler photos, tableaux, articles, réflexions autour de Monk. Donc voilà, j'en ai lu des morceaux.
Oui, les questions, d'ailleurs, c'est le titre de Mister Monk. C'est ainsi que vous raisonnez, vous aussi, enfin, qu'il vous apparaît ?
Oui et non, c'est-à-dire je me méfie de ça aussi, c'est-à-dire que. Ouais, il y a un mystère, mais ce mystère, il est juste qu'il réussit, à mon avis, hein, il réussit à faire ce qui nous est tellement difficile, à beaucoup d'entre nous, en tout cas à moi, c'est-à-dire de rester aussi concret en tout. Vous voyez bien la différence entre les intentions et ce qu'on réussit à faire. Monk, c'est quelqu'un qui réussit à compresser, je crois, les choses. Ça coûte cher.
De créer librement ?
De créer librement, de parler librement, de parler directement, de dire ce qu'on pense, etc. etc. De jamais se faire entraîner par la machine ailleurs que là où il veut être. C'est pas par prétention. C'est juste par nécessité chez lui, quoi. Il y a peu d'exemples de ça, et du coup, il a l'air mystérieux, mais c'est pas tant qu'il est mystérieux, c'est nous qui sommes un peu incapables, quoi. C'est pour ça que ce que fait Monk, ce que font d'autres, de s'intéresser aux formes et de casser les formes pour que restent vivantes des choses, je pense que c'est un travail permanent.
Merci, à bientôt. Pour le prochain film.
Avec plaisir.
Et en attendant, Rewind and Play, donc d'Alain Gomis.
Merci
beaucoup.
Au revoir. Néo Géo.